ici Marie-Lune et bienvenue au 7e épisode de Cœur et Croc, le podcast qui répond aux questions que vous n'avez jamais osé poser concernant l'amour, le sexe et la vie en général. Pour m'aider à vous répondre, je serai à chaque émission accompagnée d'un ou d'une invitée. Donc cette semaine, il est collaborateur à C'est juste du web à ICI Art TV, chroniqueur chez Urbania et propriétaire de sa propre chaîne YouTube.
Propriétaire.
Propriétaire.
Je loue pas, là.
C'est à toi.
C'est pas locataire.
Donc, on pourrait être tanné de te voir partout, un peu, t'entendre beaucoup, mais en tout cas, moi, c'est pas le cas.
Je
me tanne vraiment pas.
C'est
alors, smart. Fred de Bastien-Forêt.
Bonjour, bonjour. Fred Bastien. Fred sinon, Bastien? C'est, sinon, c'est Forest.
Forest. C'est irlandais. Fred Bastien-Forest.
Ouais, okay. Exact. Mais fait que Fred Bastien, ça, c'est devenu un peu de facto, entre guillemets, mon nom d'artiste.
Ton nom d'artiste. D'accord, donc c'est mieux pour te reconnaître. Je suis ta carrière depuis, on peut dire carrière?
Je pensais où ça va bientôt faire 10 ans.
Waouh! Je suis ce que tu fais depuis un bon bout de temps et il y a beaucoup de produits qui s'offrent out there sur Internet, sur YouTube, les petits clips. Et j'ai toujours trouvé que tu apportais toujours une touche un peu plus intelligente où il y avait toujours un effort de donner du bon contenu.
Nourris mon ego comme ça, continue
non,
de
mais
faire c'est... gonfler ma tête, je pourrais plus sortir du studio.
C'est aussi pour expliquer pourquoi j'ai choisi de t'inviter toi. Pas juste parce que t'es YouTuber, mais je trouvais que t'es quelqu'un qui s'exprime bien, qui
Merci.
Transporte des bonnes idées, qui a des bonnes valeurs. Et malheureusement, maintenant, avec les gens, dès qu'ils sont populaires, pourraient se permettre de niveler par le bas, d'offrir un moins bon service, un moins bon contenu.
Logan Paul.
Et c'est ça. Pour ne pas le nommer. Et en fait, beaucoup de YouTubers qui s'essaient. Et je trouvais ça intéressant de recevoir un homme qui s'exprime bien et qui est très humain aussi.
Alors, un merci, merci. Un homme blanc cis, c'est pas très bon pour tes statistiques
oui,
de représentativité.
Non.
Mais j'imagine que vous êtes bon à date là, dans cet épisode.
Non. Ben, on fait gars.
Avez-vous la parité au moins?
Oui, on fait toujours gars-fille. Bon. Par contre, on m'a fait remarquer, et c'est vrai,
très blanc.
C'est très blanc.
Bon.
C'est très,
bon,
très blanc.
Il faudra sortir de ses horizons, là.
Oui, je m'excuse. Mais en fait, c'est comme...
excuse-toi pas, là.
Non, mais là, je m'excuse. Mais comme je débute, j'essaie de prendre des gens avec qui j'ai déjà eu contact.
Mais oui.
Et apparemment, je m'en rends compte.
Ouais, mais premièrement, là, on jase, là, c'est une reproche valide, mais en même temps, c'est ça, faut faire un effort, tu sais,
ouais.
Puis, mais faut pas non plus... s'auto-flageller non plus.
Non, mais j'ai trouvé ça bien parce que j'avais pas remarqué. Mm-hmm. Je faisais des listes goffées, gens intéressants, un peu de diversité, mais j'avais pas pensé malheureusement à la diversité raciale et c'est très aussi hétéronormatif pour l'instant.
À suivre. C'est un beau sujet, LGBTQ+.
Oui, c'est ça. Justement, je suis contente que tu aies accepté de venir ici parce que tu es une personnalité connue. Est-ce que
très.
C'est... Oui, très, très connue.
Pas autant que Murphy Cooper. Non.
On a ça. Est-ce que c'est difficile, est-ce que, en fait, tout d'abord, toi, est-ce que tu essaies de faire une limite entre ta vie privée et ton personnage public? Parce qu'en fait, ton personnage public, entre guillemets, c'est toi.
Ouais, vraiment. Il est très peu loin de ma vie privée, mais c'est toujours une question parce qu'il y a comme une distinction, sauf que c'est difficile à clarifier. Je trouve que une des personnes qui m'a fait réfléchir à ça le plus tôt, mais c'était par rapport à son propre personnage, c'était Maybe Watson, le rappeur à La Claire Ensemble. Puis je pense que c'était comme en 2011 ou en 2012 où j'ai dit nanana, ça fait partie du personnage. Puis tu sais, il m'a regardé en disant ouais, mais Fred, mon personnage, il est pas bien loin de ma vraie personne. Puis ça m'a ramené à moi-même qui est un peu comme ça. Tu sais, puis moi, je dis toujours que t'as différentes manières d'animer ou d'avoir un personnage télévisuel ou YouTube-esque, là, dans le sens où tu peux être lecteur de nouvelles, tu peux être Céline Galipeau puis avoir complètement un personnage, dans le sens où Céline Galipeau, elle doit être très intelligente et vraiment pertinente dans la vie, mais je suis sûr que des fois, elle dit Chris, maintenant.
Oui,
t'sais.
Elle a des côtés très wild,
exact.
Céline,
ben,
c'est sûr.
Non, mais peut-être, honnêtement. Là,
on lui souhaite.
Le point, c'est que sa personnalité est très différente en ondes puis en personne, et moi, la mienne est vraiment proche, tu sais. Mais à la base... Quand la caméra ou le micro ouvre, même si, entre guillemets, j'essaie de changer le moins possible, tu deviens toi à la deux. L'objectif, je pense, c'est de devenir, entre guillemets, la meilleure version de
Donc
toi-même.
Donc, c'est pas une caricature, c'est juste toi plus poussé.
Ouais. Des fois, je suis le genre de gars qui va rire de ses propres jokes, là. Fait que des fois, je vais trouver que je suis une caricature de moi-même, tu comprends? Mais En même temps, si tu vois, c'est moi qui a réussi à roter pendant ton podcast. J'ai mangé un excellent plat de pâtes. Merci à mon coloc, Frank Fante, qui m'a fait des pâtes aux œufs. Il habite avec un Italien, quand même nice. Mais bref, oui, donc mon personnage est assez proche de ma vraie personne, mais des fois, tu polis les coins un petit peu, juste okay. Un peu.
Et est-ce que ça t'arrive souvent de parler de ta vie privée dans tes vidéos, tout ce qui est plus personnel?
C'est parce que...
Je sais que sur Facebook, t'as parlé de ta famille un
ouais,
peu.
Oui, j'ai parlé de ma famille. Tu sais, de ma grand-mère, ma famille, oui, définitivement. Tu sais, avec Camille, qui est ma blonde, qui est aussi une YouTuber, c'est sûr qu'on va avoir une vie privée encore un peu plus ouverte. Mais tu sais, je fais pas du n'importe quoi. Puis, tu sais, surtout sur ma tribune. Tu sais, là, je suis invité chez toi, ça me fait plaisir de parler de plus de ma vie personnelle. Ou quand je suis invité, par exemple, sur la chaîne de ma blonde, Camille, qui, elle, a un côté un petit peu plus, justement, discussion, parfois tabou, parfois, elle va jaser un peu plus de ses valeurs, puis tout ça. Alors que moi, quand je crée du contenu encore, c'est bien rare que je me dis pas, bon là, je vais créer un contenu. Je vais pas juste parler, il y a toujours une préparation à mes vidéos, même ceux qui sont niaiseux, j'y ai pensé avant, okay. Tu sais. Or, je le fais peut-être pas souvent, et je suis ici pour ça.
Je trouve ça un peu intéressant, justement, que ce soit un couple de gens populaires et de gens en fait qui sont devant les caméras. Est-ce que tu trouves ça difficile aussi que le couple soit sous les caméras, soit sous le regard des gens, pas juste vous personnellement, mais le couple en tant qu'entité?
À date, c'est vraiment plus un avantage que des inconvénients mineurs. Parce que, autant je pense que publiquement que de manière privée, je pense que notre couple va bien, tu sais.
Okay.
J'espère que je me trompe pas, mais je pense que on les deux, on a une bonne complicité, qu'on comprend bien c'est quoi la vie publique de l'autre, tu sais. Puis je te dirais que c'est un... C'est pratique parce que on sait, tu sais, assez qu'ici, je suis ce soir invité à un podcast, tu sais, puis que j'aurais pu, par exemple, canceller un souper à la dernière minute en disant, hey, finalement, j'ai ça qui arrive. Puis elle, c'est la même chose, tu sais. Comme demain, c'est la Saint-Valentin. Là, ça va peut-être paraître plus tard le podcast, mais demain, c'est la Saint-Valentin. Tantôt, je l'ai appelé en disant, hey, tu sais, on se voit ce soir, puis jeudi soir, c'est notre soirée de Saint-Valentin, c'est Black Panther. On va voir le nouveau film de Marvel.
Excellent choix.
Ah, tu l'as vu? Oh mon Dieu,
ben,
désolé.
Ben, tu m'as pas dit.
Benoît, qui est ici derrière la caméra, mais l'a vu et je suis hors de moi présentement, mais on va regarder ce sujet de conversation-là
ben.
Pour
fais le même
futur.
Pas de face, Ben.
Mais bref, ça va être notre soirée Saint-Valentin. Alors donc, demain, la vraie Saint-Valentin, on avait comme rien, donc je l'appelle tantôt, puis je dis, ah, tu sais, on pourrait peut-être faire un souper, comme, tu sais, il faut que je peinture chez nous, peu importe. Et elle dit, ah, je peux pas, je tourne un vlog demain, je tourne un vlog, j'ai booké un vlog, je vais tourner un vlog, je vais filmer mon ancien chien, whatever. Donc, tu sais...
Pour quelqu'un d'autre, ça aurait pu mal passer.
Oui, exact, puis moi, je comprends absolument ça, que ce soit la Saint-Valentin ou autre chose, ça aurait pu être moi dans la même situation. Or, donc ça, c'est très pratique. Puis, deuxièmement, c'est aussi même joindre l'utile à l'agréable, dans le sens où même d'un point de vue, on peut parler même d'un point de vue économique, pas juste d'un point de vue spirit YouTube, mais d'un point de vue économique, c'est intéressant parce que les deux, on est représentés par la même agence de YouTubeurs. Donc, quand il y a des collaborations avec des marques, des fois, quand une marque m'approche, je dis « Ah, c'est intéressant, mais je pourrais faire la vidéo avec Camille. » Donc là, bang, c'est un cachet pour Camille. Ou des fois, c'est le contraire. Ou des fois, on est carrément approché en tant que couple. Donc, il y a des marques qui sont comme « On va travailler avec Fred et Cam, ils sont cute. » Et donc, ça peut être intéressant pour faire des projets puis nous permettre de mieux vivre de notre rêve numérique.
Je vous le souhaite. Est-ce que des fois, faut pas penser comme ça, mais est-ce que des fois, vous pensez, en fait, à si jamais ça fonctionne moins bien, qu'est-ce qui pourrait arriver, en fait, avec cette portion-là de votre vie?
Absolument. Puis on sait jamais ce qui peut arriver dans l'irrationalité d'un mauvais break-up, là. Mais... pour l'instant, on a déjà évoqué à la limite un peu à la blague, tu sais, qu'est-ce qui arriverait si on se séparait. Ben, on ferait deux vidéos. On ferait deux vidéos. Puis, c'est probablement ensemble.
Rentabiliser votre break-up.
Non, mais
quelle
c'est
une bonne manière de s'en sortir.
Non, mais honnêtement, c'est même pas une question de rentabilité, là, parce que même si tu fais un clip, entre guillemets, viral sur YouTube au Québec, avec les abonnés qu'on a, c'est-à-dire, dans son cas, 50 000 abonnés, dans mon cas, 30 000 abonnés, tu fais pas beaucoup d'argent. Là. Pour vivre, là, pour bien vivre de YouTube, ça prend des partenariats, puis des publicités, puis des commanditaires, ou des activités tierces, genre des boutiques, ou des produits dérivés, ou des livres, ou moi qui fais de la télévision. Tu sais, moi, c'est pas mal les partenariats, puis moi qui anime, qui permet de vivre, parce qu'au Québec, sur YouTube, T'sais, en théorie, le YouTube veut pas qu'on dise exactement combien on fait là, sur AdSense, mais l'approximation à la suivante, c'est environ 1$ par 1000 clics.
Okay.
Donc, t'sais, moi, si je fais un de mes bons hits, là, un bon vidéo cette semaine, par exemple, je ferais un genre de 12 000 views, là, je serais très content. Là. C'est 12$. Là, t'sais. On s'entend. Là.
C'est beaucoup, beaucoup de travail.
C'est énorme.
Parce qu'il y a le travail du vidéo, il y a le montage, il y a tout ça, mais il y a aussi...
À mon dernier vidéo, j'ai mis 20 heures dessus. J'ai mis 20 heures sur mon dernier vidéo, puis... Puis, je pense qu'il va pogner un genre de maximum 3000 views. Là. C'est 3$.
Je vais aller liker juste par pitié ben ou non, je vais juste te donner une pire.
Non, mais on choisit. Ouais. Je le fais, un, par plaisir. Puis c'est aussi la première chose. C'est du cliché, mais c'est ce que je conseille aussi à tous les gens qui voient la vie de YouTuber comme un rêve. Puis il y a tellement de kids qui veulent être des YouTubers. C'est
hallucinant.
Ouais,
je pense que je vais faire
là.
Écouter l'épisode à mon
mais
à mon
non,
fils.
Mais moi, premièrement, je l'encourage. Puis je lui dis, excellent, mais commence tout de suite. Comme tout de suite, caméra, pratique-toi.
Il y en a déjà, et des bon. Mon fils a des vidéos YouTube.
Ça, c'est
ans.
Excellent.
On le voit pas, on le voit pas son visage.
C'est bon. Assure-toi de le suivre dans cette aventure-là, parce que ça peut autant être très positif que ça pourrait aussi être problématique.
Ah oui.
Mais moi, je l'encourage. Mais deuxièmement, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis c'est du
d'investissement
montage,
personnel.
Puis...
De...
Exact. Donc, il faut le faire parce qu'on aime ça en premier. Parce que ça se peut, c'est comme jouer au hockey. T'as des chances de faire la Ligue nationale, mais t'as des chances d'aimer jouer au hockey toute ta vie aussi. Puis d'être comme mon père qui a genre 60 kicks qui joue au hockey pour le plaisir, tu sais. C'est la même chose pour YouTube. J'en connais, j'ai plein d'amis YouTubeurs qui ne prétendent jamais essayer de vivre ça d'un jour, mais qui aiment ça. C'est une activité le fun. Puis donc, tant mieux de. Il faut commencer avec ça. Puis ensuite, si on réussit à avoir un certain succès avec ça, ben il y a des chances que tu puisses réussir à avoir des partenariats ou des trucs, puis d'éventuellement en vivre. C'est possible, ça existe. J'en suis un exemple, j'en connais plein de bons exemples. Mais à la base, il faut surtout aimer ça.
Je trouve que c'est un bon exemple de justement te bâtir ta propre... C'est plus qu'une compagnie, de ta propre personne,
mon,
en fait.
Mon empire.
Ça fait 10 ans que tu traînes ton nom un peu partout,
oui,
que
exact.
Tu touches à tout.
Oui.
Il faut que ça se construise, il faut que tu fasses un nom, il faut que tu fasses une personnalité, il faut que tu rencontres des gens.
Ouais.
J'imagine que ça doit drainer aussi,
ouais.
D'être avec des gens, de faire des produits pour des gens, de te vendre toi-même.
C'est drainant, mais c'est ma job. Hein. C'est cool. Je veux dire, j'en connais beaucoup, moi, des jobs drainantes. Là. Tous mes amis ont des jobs drainantes. Là, que tu sois, tu travailles en pub, que tu travailles... je veux dire, même la question au IGA est vidé de sa journée, là, t'sais, à la fin de la journée. Là. Donc, t'sais, moi, je le vois comme un privilège incroyable, que oui, c'est drainant, mais c'est quelque chose que j'adore faire, puis dans lequel je vois une certaine longévité, puis c'est un plaisir de vivre de ce que je fais. C'est beaucoup de travail, mais j'en suis conscient que c'est un privilège de le faire. Mais aussi, c'est drainant, mais j'aime ça, puis la ligne, c'est là où justement ça revient avec ta première question, la ligne entre la vie personnelle et la vie professionnelle est assez mince, tu sais. Oui, je suis workaholic, tu sais, après le tournage de vendredi de C'est juste du web, je vais prendre une demi-heure pour finir mon post Instagram qui soit excellent, tu sais, comme une vraie blogueuse mode que je suis, puis... Tu sais, je suis avec moi, il y a Manon qui travaille à RTV, qui travaille super fort, elle aussi, qui est aussi workaholic, mais elle qui est en train de booker des meetings. Tu sais, les deux, on se regarde, donc, c'est vendredi, là, il est 5h30. Là,
vraiment,
on est encore au studio. Puis moi, tu sais, moi, je suis sur mon Instagram, mais au moins, je suis en train de modifier une photo Instagram. Tu sais, dans le sens où c'est le fun, c'est comme un jeu vidéo pour moi. Il y a un objectif, c'est numérique, c'est quelque chose que j'ai du plaisir à faire. Donc, je suis chanceux d'aimer beaucoup ce que je fais, puis c'est drainant, mais ça vaut la peine. Puis, comme mes amis, j'ai un de mes amis qui dit, il me semble, ça fait longtemps que t'es bénévole pour l'Empire Fred Bastien Inc. Là. Ça, c'est vrai. Là.
c'est vraiment ça.
Faire des 20 heures de travail pour un 3 piastres de YouTube, mais qui va me permettre d'aller chercher quelque chose plus loin éventuellement. C'est un peu ça, ma vie. Puis j'ai un autre ami qui dit que ça fait 10 ans que je travaille 7 jours sur 7. Ça, des fois, je prends les journées off, là, mais je comprends ce qu'il veut dire.
Mais j'imagine, juste quand t'es rentré dans le studio Lunac tantôt, une des premières choses que t'as fait, c'est faire une vidéo.
J'ai fait une story. Ouais, une story Instagram.
Ça valait la peine parce que le studio Lunac, les
c'est
gens
ne savent
peut-être pas. Regorge de trésors, de board games et de figurines.
Ah,
tout
oui,
le monde qui rentre ici est ébahi.
Vraiment, c'est le musée du plaisir. Là. Honnêtement, j'ai été très privilégié d'assister à ça. Mais oui, mais tu vois.
Ça fait partie de toi.
C'est un bon exemple, c'est ça. J'ai fait une story, je me suis pas dit comme hey, je suis dans un studio cool, là, je vais vraiment profiter de l'occasion pour faire une bonne story. Non, c'est venu tout à fait naturellement. T'sais, j'ai vu les jeux de société. C'est, pour vous donner une idée, les gens qui nous écoutent présentement, c'est comme peut-être quoi 1000 jeux de société, j'ai aucune idée, 500
jeux
de société.
C'est un mur jusqu'au plafond.
C'est un mur de jeux de société. C'est, moi, ça m'a beaucoup impressionné quand je suis rentré. Et c'est le premier réflexe des réseaux sociaux, c'est que j'ai eu envie de le partager à des gens autour de moi. J'étais avec vous, mais vous l'avez vécu, vous avez vécu mon émotion. question. Mais là, tu sais, plutôt que d'appeler ma mère puis de dire comme, hey, je suis devant 1000 jeux de société, ben, tu sais, je fais juste faire une story puis ceux qui ont envie de l'écouter, ils l'écoutent. Puis,
Parce qu'il y a beaucoup, on reproche souvent que les gens qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, les YouTubers, tout ça, c'est de vouloir se montrer, vouloir se montrer sur son meilleur jour. Mais il y a aussi beaucoup la volonté de partage qu'on oublie beaucoup. C'est pas juste
des fois, ça vient
de montrer
bonne place.
Ce qu'on fait, mais de qu'est-ce qu'on vit.
Exact. T'as absolument raison. Puis c'est pas juste une question, comme tu dis, de paraître, mais moi je pense que ça l'est un peu. Tu sais, il y a différentes proportions. Il y en a qui le font plus pour se montrer que d'autres, mais on le fait tout un peu pour se montrer. Mais je pense que c'est la même chose pour les journalistes qui travaillent à Radio-Canada. Que les gens, dès que tu prends un micro dans la vie, dans ma tête, ça l'implique une certaine portion de narcissisme, mais qui varie de personne à personne, puis je m'inclus grandement là-dedans. Mais effectivement, moi, des fois, tu sais, quand je fais mes vidéos, quand je fais des vlogs ou quoi que ce soit, des fois, je suis tanné de voir ma grosse face, là, dans le sens où j'aime bien ça, l'animé, là, c'est ma passion, c'est mon métier, mais des fois, c'est plus l'information que j'ai envie de partager et puis le message que je veux passer à quelqu'un.
T'effacer.
Mais ça donne que... ça n'est sans même effacer, ça donne que... Ben oui, si j'avais une équipe télé, puis je veux dire que j'étais producteur, puis que j'avais des gens qui pourraient... Ou une équipe pour tourner un sketch cinématique incroyable, tu sais, pour faire passer mon message ou pour jouer ma réflexion, ça marcherait, sauf que ça donne que... Ben, je suis tout seul.
Ton matériel, c'est
j'ai
toi.
J'ai une caméra, puis un laptop de montage. Donc, j'ai pas le choix de mettre ma grosse face si je veux passer un message. et donc, ça tombe bien parce que j'aime ça le faire, puis je prends plaisir à le faire, puis j'ai choisi de faire ça absolument. Sauf que, des fois, il y a une part que c'est, bon, ben, ces réseaux-là, surtout YouTube, puis Instagram aussi, c'est pareil, récompensent grandement les visages. Tu sais, le fait de voir quelqu'un. Mettons, prends une photo sur Instagram, là, je pense que c'est une tendance qui est assez universelle, mais ça, surtout pour les personnes et les créateurs, si tu prends le plus beau coucher de soleil versus si tu prends le plus beau coucher de soleil avec toi dans la photo, c'est garanti que tu vas avoir plus de likes sur la version avec toi dans la
photo.
Moi
qui haïs ça, ma face, n'importe où.
Ouais, je comprends, mais je veux dire, ton cerveau, il sécrète de la dopamine puis de la sérotonine quand tu vois des beaux visages. Donc, puis le like, il est rattaché un peu à ces émotions-là.
Il y a beaucoup de psychologie là-dedans.
Ben, quand même. Et moi, j'aime ça tirer sur ce filon-là, aller chercher ça, puis des fois même apprendre selon le truc-là à mes collègues qui sont des Instagrammeuses ultra populaires, mais qui peut-être ils ont peut-être jamais vu ça de même tant que ça. Mais
j'aime ça que ce soit aussi c'est très anthropologique, c'est pas juste.
Absolument, mais moi c'est bienvenu dans mon hostie tête là, c'est ça le problème là. C'est genre c'est que j'en sors jamais. Alors donc même quand il est question de jouer à la blogueuse mode sur Instagram puis à trouver un moyen de le rentabiliser, ben je vais juste me poser des questions sur la science puis la philosophie en le faisant, tu sais.
Excellent. Quand je disais du bon contenu de qualité, on a un peu de tout. On a de l'Instagrammeuse de mode et d'anthropologie. On a parlé tantôt justement de ta vie de couple et je t'avais demandé de quoi tu aimerais me parler, qui fait de toi peut-être une personne différente, ce que tu vis différemment, et tu me dis que ta copine est pansexuelle.
Exact, mais j'ai pensé à mon affaire parce que tu m'as proposé un sujet de conversation, tu as dit de quoi tu aurais envie de discuter à cœur et croupe, et je dois me confesser, je n'avais jamais écouté encore.
C'est correct, c'est le septième épisode.
C'est le septième épisode, exact. Mais dans ma tête, c'était un peu comme la version moderne du sketch de François Pérus, Sexe et conseils.
Oui, on me fait souvent la référence, mais c'est pas si sexuel, mais il y a beaucoup. J'avoue que j'aborde pas.
Tu fais moins de lapsus, là, définitivement.
Oui. J'avoue que cœur et croupe est supposé être 50-50, mais j'avoue que jusqu'à date, on parle peut-être un peu plus du cœur que de la croupe. On peut essayer de balancer. J'avoue que quand j'ai reçu Inza Desjardins, on m'a fait remarquer que ça aurait pu être une bonne occasion de la sortir de son personnage d'auteur jeunesse. Je n'ai pas osé.
Tu n'as pas osé, voilà.
Je n'ai pas osé. Je ne sais pas si elle aurait été à l'aise, mais c'est pour ça que justement, si quelqu'un me propose un sujet comme ça et on me fait remarquer aussi, les gens m'ont fait la mention qu'ils aimeraient qu'on parle plus de LGBT+. Donc,
ben justement, l'occasion est parfaite. Et moi, personnellement, je pensais à un sujet. Puis tu sais, je suis un gars, justement, qui est assez... selon moi, c'est une histoire sans histoire d'un point de vue sexuel, dans le sens où, ben, tu sais, je suis un homme blanc cis... j'ai pas eu trop à me poser des questions dans ma vie, tu sais, j'ai été
pas stigmatisé du tout.
Non, exact, tu sais, je m'identifie au sexe qui m'a été attribué biologiquement, donc tu sais, je veux dire, rendu là, comme je dis, une histoire sans histoire, mais c'est assez intéressant du côté de ma blonde, parce que mais là c'est tout récent là, c'est il y a environ 2 semaines ou 1 semaine, elle a fait son coming out en tant que pansexuelle sur YouTube.
Okay.
Et tu sais, moi, j'étais pas mal au courant, là, dans le sens où, pour reprendre ces mots, puis vous irez voir la vidéo si vous êtes curieux, là, tapez Cam Grande-Brune, pansexuelle. C'est une longue vidéo de 18 minutes avec Jessie Nadeau, qui a fait Occupation double récemment, okay. qui, elle aussi, est pansexuelle.
Et, je shrug, je suis d'accord.
Bref, autrement dit, ma blonde, être pansexuelle dans la vie, c'est quand...
Oui, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est pansexuelle?
C'est l'étape après bi, OK? Okay. Moi-même, j'ai eu besoin d'un cours dans ma blonde. Alors, bisexuel, on est assez comme familier avec le phénomène. C'est quelqu'un qui est sexuellement attiré par les hommes et les femmes. Et aussi, qui a pas nécessairement 50-50, il y a un pourcentage, c'est un spectre, comme bien des choses.
Oui, des fois c'est plus sexuel, des fois c'est plus mental, plus romantique, un ou l'autre,
exact.
Plus circonstanciel. Ou...
Voilà, voilà. Et donc, ça, j'étais bien au courant que ma blonde a éprouvé une certaine attirance sexuelle envers les filles et les femmes, et les hommes aussi, comme à sort avec moi, mettons. Et pansexuel, c'est que dans le fond, tu ajoutes un peu à ce spectre-là, que c'est peu importe où la personne se situe sur le spectre que tu pourrais tomber en amour avec. Par exemple, les pansexuels pourraient tomber en amour avec une personne trans.
OK.
Alors, c'est juste... C'est pas très loin du bisexuel, parce que bisexuel, c'est homme et femme, alors que pansexuel, c'est homme ou femme ou non-binaire ou asexué ou trans ou etc., etc. ou plus dans le LGBTQ+. Alors, autrement dit, ma blonde pourrait tomber aussi en amour avec une femme. Ou avec une personne trans, ou avec peu importe. Et mais présentement, elle est en amour avec moi. C'est, c'est ça la situation actuelle. Et elle, elle a dû parler à sa mère, parce que là, quand elle a fait son coming out il y a 2 semaines, tu sais, ma blonde a 28 ans là, quand même. Là. Donc, c'est... Puis, elle a eu des chums, tu sais, toute sa vie, pas mal. Tu y en parleras si tu veux avoir plus de détails, ou t'écouteras la vidéo, là. Mais le point suivant, là, tu dis à sa mère, tu sais, ouais, non, ça veut
la
pas
visée.
Dire que je suis pas... Non, mais ça veut pas dire que je suis pas monogame, là. Tu sais, là, je sors avec Fred, tu sais, ça fait pas d'elle nécessairement quelqu'un qui a envie de sortir avec tout le monde en même temps, ou d'être
polygame.
Ça, c'est
un gros cliché, même juste avec les bisexuels, que tu fais des trips à trois, que tu sors avec les deux en même temps, que tu vas cruiser à gauche puis à droite, et donc c'est plus... Et j'ai justement te demandé, est-ce que c'est plus insécurisant savoir qu'elle peut en fait elle peut tomber en amour avec actually n'importe qui.
N'importe qui. Mais n'importe qui, mais pas nécessairement n'importe comment.
Non.
Hein? Et honnêtement, moi personnellement, je suis pas vraiment un gars nerveux dans la vie. Je suis pas un gars stressé ou jaloux. Je pense que si les règles du jeu sont claires puis t'es en symbiose communicationnelle avec ton partenaire. T'sais, moi, je suis assez straightforward dans la vie. Je pense que dans mon passé amoureux, je n'ai jamais eu de problème d'infidélité ou de personne qui quitte un couple ou quoi que ce soit. Or, je suis quelqu'un qui fait confiance dans la vie. Et si, puis Camille aussi, tout quoi, si elle avait tombé en amour avec quelqu'un d'autre, ben, qu'elle me laisse, qu'on finisse l'histoire, puis qu'on fasse pas. Tu sais, la beauté de notre situation, c'est qu'on n'a pas d'enfant, on n'en veut pas. Donc, autrement dit, je pense que tant mieux parce qu'on vit présentement une belle histoire, puis je suis très heureux avec Camille, puis j'ai l'impression qu'elle est heureuse aussi avec moi. Mais que si ça avait à terminer, ben ça serait pas plus grave que ça. Donc, qu'elle me quitte pour un gars ou une fille, ça ne fait pas vraiment de différence dans ma tête. T'sais. L'important, ça sera qu'elle m'aura quitté et on passera à la prochaine chose en question.
Le résultat
si
elle-même.
Si un jour ça arrive. Exact, exact.
Mais quelqu'un d'insécure pourrait se dire, hey, faut plus que je sois juste jaloux des gars, faut que je sois jaloux de absolument
idéalement,
il
faudrait
monde.
Être pas jaloux en général dans la vie, ça serait la première étape.
C'est pas si facile.
Mais si ça arrive, je comprends très bien. Mais pour ce qui est de ça aussi, il y a quand même plusieurs avantages. Par exemple, quand on va voir le football américain, les deux, on est des fans de football, peut-être moi un peu plus qu'elle, mais elle aime bien aller voir les matchs, ben on peut choisir nos cheerleaders préférés ensemble. Puis genre, jaser à savoir
si c'est
laquelle.
Ça fait un point en commun de plus.
Ben oui, exact. On peut, par exemple, si on regarde un film ou quoi que ce soit, on peut essayer d'évaluer notre intérêt envers les personnages filles, tu sais, qui est quand même un point commun de plus dans nos vies personnelles et judgmental. Alors,
on fait tout un peu.
Voilà,
ça.
C'est it's a win-win.
Est-ce que tu me dis que tu le savais déjà pas mal? Est-ce que vous en avez déjà discuté de façon claire ou c'était un feeling ou ça a toujours été un peu là?
Je me souviens pas exactement, mais je pense qu'elle m'a dit assez tôt dans la relation, tu sais, moi je trouve les filles vraiment chics. Je pense que même j'étais au courant qu'il y a des fréquentations avant moi, c'était des filles. Donc, okay. Un plus un égale deux, là, dans le sens où tu te casses pas trop la tête si la personne qui était en train de dater me dit « Ah oui, avant toi, je te fréquentais une fille », t'es comme « Ah ben, d'accord, okay. Tu sais, now I know ». Mais je pense que c'est ça, elle me l'a dit assez tôt, puis c'est pas le genre de choses c'est pas le genre de choses qui a été choquant pour moi, parce que je le voyais, c'était un peu dans sa personnalité, tu sais, elle trouvait des filles belles. Puis je dois dire aussi, puis je vais pas faire de généralisation, mais c'est loin d'être la première fille dans ma vie qui trippe aussi un peu ses filles, là. Tu sais, je veux dire, peut-être que c'est une tendance un peu plus répandue que ce qu'on entendrait, parce que moi, c'est pas la première fille avec qui je suis ou que je connais qui trouve des filles chics dans la vie.
Est-ce que ce serait générationnel ou ce serait juste que c'est plus accepté?
Ah, je pense que c'est plus accepté, je pense que c'est plus ouvert. Je pense que il y a pas si longtemps.
C'est plus compris aussi.
Ouais, exact. Puis il y a pas si longtemps au Québec, c'est bien dommage, mais c'est rare que les femmes sortaient de chez eux. Tu sais, sérieusement, là, il y a même pas 100 ans, il y a pas de droit de vote. Là. Donc, je pense que le fait qu'on vit à l'ère de l'information, qu'on a Internet, que les femmes ont des jobs, travaillent, sortent dehors, ben ils peuvent être en contact avec un paquet d'autres phénomènes, puis c'est une excellente chose, c'est juste la base. Donc je pense que ça fait que c'est plus accepté socialement aussi. Puis peut-être qu'on continue... Tu sais, les baby boomers étaient vus comme une génération peace and love qui a sexualisé l'Amérique. Mais je pense qu'on a continué un peu cette tendance-là aussi. Tu sais, on a continué de détabouiser peut-être nos réflexions sur le sexe. Puis je pense que c'est tant mieux.
Je trouve ça bien parce que justement, jusqu'à il y a quelques années, il y avait, tu sais... straight, gay, puis à un moment donné, il y avait justement les bisexuels, mais à un moment donné, il y en a d'autres qui se sont ajoutés et il y a des zones plus floues, il y a des catégories qui se sont ajoutées.
Ouais.
Puis tout le monde peut se retrouver un peu là-dedans parce exact. Que j'ai fait un peu de lecture sur la pansexualité justement un peu avant. Et il y a beaucoup d'organismes ou de trucs qui existent qui sont les pansexuels, qui sont pour les bisexuels, les pansexuels sont rajoutés à ça parce que ça n'existe pas nécessairement encore,
ouais.
Mais que ça se développe avec le temps parce que justement, c'est un peu plus défini. Et il y a des gens qui se sont définis en tant que pansexuels parce qu'ils ne voulaient pas se dire ni hétéro, ni homosexuel, ni bisexuel. Donc, ils ont décidé d'aller avec un autre choix. Donc, il y a plus d'informations, plus de connaissances. Les gens ont le plus grand éventail d'associations. Ils peuvent justement trouver où est-ce qu'ils fit un peu plus s'ils veulent. Parce que justement, il y a beaucoup de gens qui pensent que la pansexualité, c'est la bisexualité.
Mm-hmm.
Mais ça, on a
c'est
rendu...
Pas loin. C'est pas loin, mais il en manque un peu.
Je trouve ça bien justement qu'on a rendu les limites un petit peu floues, qu'on a donné plus... la possibilité aux gens d'aller voir un petit peu plus loin que... Parce que, faut qu'on se le dise, bisexuel, c'est quand même encore quelque chose de très rigide, tu sais, c'est encore homme-femme.
Ouais, exact, exact, qui s'identifie comme ça, tout à fait. Puis moi, je suis assez content qu'on ait inventé le plus dans LGBTQ+,
oui.
Parce que moi, ça me permet de simplement plus me tromper. Parce
que là, on a acheté... Je pensais à ça, mais en venant, j'essayais de répéter, puis je suis comme... Parce
LGBTQ+, le plus, c'est quand même... ça te sauve, là, puis je te le dis un peu à la blague, là, c'est sûr, il y a aussi IA, là, mais
ouais.
Bref, il y a différents autres... Mais le plus, moi, j'ai l'impression que ça permet d'être le plus inclusif
c'est
possible.
Exactement.
C'est comme
que...
le etc.
oui. Parce que je me sentais mal. Et si j'en oublie, ça, je vais oublier personne. Je vais stigmatiser personne. Je vais laisser personne à l'extérieur. Donc, avec le plus, justement, si tu te considères là-dedans, ça te concerne aussi, peu importe comment tu t'identifies. Il y a aussi le allosexuel qui est beaucoup utilisé. Allosexuel, c'est
comme
ceux qui...
Allophone.
Comme allophone.
Les autres sexuels.
C'est les autres sexualités qui sont pas...
Première fois que je l'entends.
Je trouve ça intéressant aussi. Ça permet justement de pas... Et ça enlève les catégories. T'sais, LGBT+, c'est quand même des catégories.
Ouais, ouais.
Donc, si tu n'as pas de catégorie ou tu ne sais pas où est-ce que tu te situes, tu n'es pas sûr, c'est changeant, tu peux juste dire allosexuel et peu importe. Donc, c'est une boîte de moins. Je trouve ça assez intéressant. Par rapport à ta copine, est-ce que vous aviez une discussion avant qu'elle fasse son coming out public?
Ben, elle m'a dit je vais faire une vidéo avec Jessie. Puis je me souviens... les deux, on savait que Jessie était pansexuelle. Et c'était une vidéo à propos de la pansexualité là, sur la chaîne YouTube de Camille. Donc, je savais que ça s'en venait. Honnêtement, pour vrai, je me souviens pas si on a parlé avant ou après. du fait qu'elle allait probablement faire son coming out de pansexuel. Moi, en plus, j'étais pas au courant si, avant qu'elle sorte la vidéo, si elle était bi ou pan. En fait, j'ai demandé. J'ai dit, je pense que j'ai demandé avant la vidéo, j'ai dit, ouais, toi, t'es-tu bi ou pan? Puis elle a dit, je pense que je suis pan. Puis, mais le timing est un peu flou dans ma tête, là. Parce que pour moi, ça allait de soi. Si elle m'avait pas dit qu'elle allait faire son coming out, je me doutais qu'elle allait le faire. Okay. Puis voilà. Puis ça a été bien reçu. Puis ça, je suis content. Sa communauté l'ont bien reçu. Puis c'est une des bonnes vidéos pour elle. Ça a stimulé beaucoup de réflexions et de commentaires et de débats dans sa chaîne. Donc ça, c'est une bonne chose. Puis,
est-ce qu'elle a eu peur des réactions un peu? Qu'il y a des réactions négatives.
Ben ça, tu vois, c'est le genre d'affaire qu'il faudrait demander. Donc, tu l'inviteras.
OK.
Parce que moi, ça me fait plaisir de parler de ma relation avec ma blonde, d'en jaser, puis surtout dans un contexte comme celui-ci où clairement, c'est ça, c'est assez particulier de, mettons, sortir avec une pansexuelle en tant qu'homme blanc cis, mettons, là. Mais...
Tu peux pas parler pour elle.
Exact. Puis trop souvent, il y a des gens, je vais même dire, surtout des filles, qui vont m'écrire à moi pour poser une question à ma blonde.
OK.
Ça arrive. Là c'est pas un exemple. Là, c'est l'exemple. C'est moi qui ai amené le sujet. Là. Mais il y a des gens, même des filles qui sont super progressives et revendicatrices, qui vont poser des questions. Puis des fois, ils passent pas parce qu'ils me connaissent mieux, je comprends. Sauf que des fois, j'ai encore l'impression qu'il y a un réflexe de « on va demander au chum ».
À son homme.
Ouais, exact. Mais peut-être que c'est moi qui a des drôles de lunettes puis qui exagère un peu les réactions.
Mais c'est quand même un drôle de réflexe.
Ouais. Peut-être que c'est parce que les gens me connaissent mieux moi. Puis aussi, Camille est assez introvertie. T'sais, elle est peut-être moins ouverte à aller vers les gens. Puis les gens savent que moi, c'est tout à fait le contraire. Je suis très, très généreux de ma personne, dis-je humblement. Mais je vais répondre, j'ai envie de dire oui à tout, d'aider tout le monde dans leur projet. Camille est un peu moins... Tu sais, les étudiants, là, je suis une mine d'or étudiant, il faut pas que je le dise trop, là, mais comme chaque étudiant qui veut une crise d'entrevue sur les YouTubers. Alors, parle-moi du métier de YouTuber. Tu sais, comme je suis le premier à dire comme, alright, je vais le faire, ça dure 10 minutes, je le fais une demi-heure, ok, je suis là. Tu sais, mais bref, peut-être que c'est moi un trait de caractère de Camille, donc peut-être que c'est pour ça que les gens finissent par passer par moi, pour profiter de ma grande générosité.
Salaud.
Mais sinon, pour la crainte avant, je sais pas, je sais que Camille et moi, les deux, on est très chanceux, on a des communautés assez saines sur YouTube, c'est des gens qui sont très positifs, puis même une communauté dans les deux cas qui s'auto-régule, fait que des fois, quand t'as un niaiseux qui vient dire une niaiserie, t'as des gens qui nous suivent, qui vont répondre balancer naturellement, mais même qui vont répondre à la personne, ah, tu connais vraiment pas Fred, t'sais, ma vidéo la plus populaire, d'ailleurs, ça fonctionne avec notre sujet sexuel, ma vidéo la plus populaire de l'histoire sur YouTube, ça s'appelle, je me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est un tutoriel sur comment frencher. Puis c'est l'étymologie, l'anthropologie de l'expression French kiss. Et tout le long, j'ai Lisanne Nadeau et Catherine Duplessis, deux youtubeuses qui French kiss derrière moi.
Ah oui, j'en ai entendu parler de celle-là. Ouais,
exact, c'est quand même un classique.
C'est Ben qui m'en a parlé.
Ouais, voilà, Benoît.
qui m'en a parlé, Ben.
Voilà, c'est quand même une bonne vidéo qui fonctionne bien côté popularité en termes de views pur et dur. Mais. Pourquoi je te parle de ça?
Les
commentaires négatifs. Alors là, il y a des gens qui ont. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont commencé à commenter. Ah, c'est quoi là, la prochaine affaire là? Tu vas vendre des mères pour des clics, sale pute à clics, Fred Bastien, là, c'est quoi? Tu vas fourrer pour avoir des clics en cam?
Oh, puis, wow.
Puis ma communauté qui me connaissait depuis longtemps, ben là, c'est pas si violent. En tout cas, je comprends. Mais en même temps, c'est ça, je suis pas dans tes souliers. T'sais, dans le sens où moi, un homme de 6 pieds, t'sais, je veux dire, moi j'ai moins de sensibilité à quelqu'un qui est comme ah, tu vas te fourrer, non, non. T'sais, on dirait que peut-être que j'ai pas la crainte que certaines ont eu toute leur vie, malheureusement. Mais bref, les commentaires ont commencé à être un peu négatifs et les gens qui me connaissent depuis longtemps, qui sont abonnés à ma chaîne depuis plusieurs années, ont commencé à répondre non, tu comprends pas, c'est clairement second degré, Fred, c'est clair comme de l'eau de roche, Fred fait souvent ce genre de truc, c'est comme la dénonciation par l'absurde un peu, bref, j'avais même pas besoin de me défendre que ma communauté était comme non, tu caches pas, vous voyez ces autres vidéos, c'est drôle, c'est une manière, c'est du Fred, c'est niaiseux puis brillant, c'est un peu ça que je vise, c'est être niaiseux puis brillant, j'essaie de faire ça, encore une fois, en toute humilité.
J'imagine que ta blonde avait déjà cette idée-là en tête, en faisant ça, que la communauté était déjà derrière elle, avait déjà plus...
Je pense que oui, tu sais, les gens sont assez ouverts, puis ils aiment aussi... Camille, tu sais, Camille, elle fait un bon travail, là, de réflexion sur des côtés parfois un peu plus tabous, là, ne serait-ce qu'elle a fait une vidéo sur la Diva Cup. Tu sais, c'est cool, là, la Diva Cup, là, mais moi, je connais pas beaucoup de personnes qui seraient game de faire vraiment une vidéo là-dessus, encore une fois, bénévolement.
C'est vrai qu'on en parle vraiment exact. Pas souvent, puis parce que les règles féminines, c'est assez tabou
c'est
encore,
malheureusement. C'est super tabou, puis tu sais, il y a plein de jeunes filles là, qui ont pu découvrir ça ou en parler avec elle, embarquer. Tu sais, elle a fait une vidéo sur des dettes, elle a parlé de ses vieilles expériences personnelles où elle était pas fière de ses décisions financières d'il y a 10 ans. Tu sais, c'est super progressif. Elle a fait des vidéos sur... Elle a pissé debout, là. Ça, c'est écœurant. Hein. Elle a fait... C'est la vidéo sur le Go Girl, OK?
Oui,
elle a acheté un objet qui te permet, en tant que fille, de pisser debout quand
dans
tu vas en
bois.
Camping ou dans le bois, whatever. Puis elle fait une démonstration, puis elle se filme en train de pisser debout. C'est incroyable. Tu sais, moi, je trouve ça... Tu sais, autant c'est un peu trash, mais autant, moi, je trouve ça courageux de sa part.
Tu sais, quand c'est pas trash pour être trash, quand c'est...
Exact.
Informatif, tu sais que personne va aller jusque-là, mais les gens ont besoin de cette information-là.
Ben oui, exact.
J'ai déjà vu ça dans une pharmacie, mais si personne n'en parle, je sais-tu que ça fonctionne
si ça
ou si ça va me couler sur la jambe?
Ouais.
Je sais pas à qui je vais aller demander ça pour de vrai.
Ça fonctionne bien. Je vais te laisser encore une fois, Karen, répondre à cette question-là. Mais de mon expérience, qui était plus comme le complice du Go Girl, parce que je veux dire, c'était moi qui attendais dans le char pendant qu'elle pissait debout dans un road trip cet été, je dirais que ça marche vraiment bien, sauf quand ça marche pas. Il y a une fois où ça a coulé, puis là, elle était... Mais c'est donc tout est possible, hein. Des fois sur une cinquantaine d'utilisations que j'étais témoin d'en voyage, parce que finalement quand on fait des road trips, tu sais, elle s'en sert quand même souvent.
Parce qu'il y a ça avec vos vidéos aussi, avec vos vies comme ça communes,
ouais.
Vous pouvez partir en voyage, faire des vidéos, vivre.
Exact.
Rentabiliser vos voyages.
Ben oui, on essaie. En tout cas, moi j'essaie quand je pars en voyage puis que c'est pas vraiment un plaisir, tu sais, comme là je vais passer en voyage pour le fun. Là. Mais, tu sais, de partir un 3 semaines, j'essaie d'avoir un partenaire. Puis je parle pas juste d'un partenaire comme Camille, mais je parle d'un partenaire commercial qui me permet de au moins break-even à la fin du voyage. Fait que, tu sais, comme si tes vacances te coûtent moins cher.
Pas venir les poches trouées. Je te remercie de nous avoir fait confiance, de parler justement de ta situation. Je sais que tu t'es permis de le faire aussi parce que ta copine était au courant, elle a fait un coming out. Donc...
J'ai dit d'ailleurs que j'allais parler de ce sujet-là, puis elle m'a donné le feu vert. Mais c'était comme évident. Là, on n'a pas besoin de se donner le feu vert, mais vu que c'est vraiment de sa vie que j'ai dit à passer, je vais parler de ça. Elle a dit, ah, cool. Elle va peut-être nous écouter, peut-être qu'elle nous écoute présentement.
Oui.
Allô, Camille.
Oh, allô, Camille. Merci beaucoup de ta confiance, Camille. Parce qu'évidemment, comme quand Mathieu était venu parler de son fils trans ou Pat nous avait parlé de son fils gay, je veux toujours que la personne confirme avant. Même chose pour moi quand je parle de ma vie personnelle, en général, si je sais que selon ce que l'invité va dire ou selon les questions que je vais parler de ma vie privée, passée ou présente, je demande toujours. Il y a une fois où j'ai dit quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû.
Ah.
Mon copain est un peu moins content, mais il a compris parce qu'en plus, il veut pas que je me censure trop.
J'espère qu'il te supporte dans tes projets.
Oui,
voilà.
Absolument. Je viens de voir les petits messages passer, justement. Allô, Dom. On pourrait peut-être répondre à des questions, aider notre public, toi qui aimes ça, donner de ton temps.
OK, donc il y a des questions...
Pas dirigées à toi, mais c'est des questions que je reçois
c'est
anonymes.
C'est donc vraiment sexe et conseil. Là.
C'est ça. Je les filtre, par exemple, avant, pour être sûr que ça fit.
On n'appelle pas live.
Pertinent. Non. Je serais pas capable de gérer ça. Je suis pas bonne. Donc, la première question que j'ai reçue, mon chum m'a trompée et je suis prête à lui pardonner. Par contre, je suis honteuse parce que certaines personnes autour de moi le savent et j'ai peur qu'ils me jugent. Comment dealer avec ça? Ah, l'ego, hein?
Bon, il y a plusieurs facteurs dans la vie, là. Mais moi, personnellement, là, je prendrais pas le bord du gars là-dedans. Là. Dans le sens où peut-être il y a mille et une raisons qui t'envoie vers la réconciliation en disant « je lui pardonne ». Mais moi, dans ma tête, quelqu'un qui te trompe une fois va te tromper deux, trois,
c'est pas
du
genre à pardonner,
fois.
Même si ça fait 25 ans que t'es avec ta blonde.
Comme je dis, il y a différents trucs. Si ça fait 25 ans... Bon, premièrement, là, je veux dire, je n'ai que 29 ans dans la vie. Là. Je sais pas c'est quoi, là, un mariage de 25 ans ou quoi que ce soit. Là. Puis dès que les enfants entrent en ligne de compte, je pense que ça peut changer la donne. Peut-être que ça peut valoir la peine de pardonner. Mais dans la vie, là, il faut faire ce qu'on fait pour faire plaisir à une seule personne, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc, si t'as envie vraiment pour toi de retourner avec ton chum, fonce et fuck the haters. Les gens qui te jugent, mais ils comprennent pas à quel point votre amour dépasse les frontières et plus oh, fort que de la tromperie. Et sinon...
C'est parole de Céline Dion, ça.
Mais si ça, te fait réfléchir autant, cher ami, que ton entourage te juge, mais peut-être que toi non plus, tu n'as pas encore tout à fait accepté cette réalité. Et peut-être que ça te fatigue pour des bonnes raisons. Alors, je creuserai ceci.
C'est ce que je me suis dit aussi en le recevant, c'est que la personne peut-être se juge de retourner avec la personne. Peut-être aussi que c'est... C'est vraiment l'ego qui entre en ligne de compte, parce que savoir cocu, que ce soit un gars ou une fille, c'est pas le fun. Que tes amis soient au courant, que la famille sache que t'es été cocu et que tu reviens avec, j'ai l'impression que la personne peut se dire que les autres la voient comme un tapis, t'sais, quelqu'un qui a pas d'amour propre. Ou évidemment, si tu restes avec cette personne-là, ben là, elle revient dans ta famille, elle revient dans les parties avec tes amis.
T'sais. Une autre histoire, est-ce que l'entourage, la famille, les amis aimaient déjà cette personne-là, ce chum-là? S'il y avait des choses à lui reprocher déjà avant, puis que là, ça, c'est un autre truc en plus, mais ils ont le beau jeu de dire tu devrais pas y retourner à cause de la tromperie, alors que c'est peut-être aussi d'autres choses qui aiment pas cette personne-là. Est-ce une personne toxique pour toi? Je ne le sais pas, pose la question.
Parce que ça peut être symptomatique de bien d'autres choses. Et puis comme tu le dis, il y a des zones grises aussi. Je pense pas que c'est tout blanc ou tout noir. J'ai toujours cru que tromper, c'était tout blanc ou tout noir. Je suis une vieille madame maintenant. Je sais que c'est peut-être différent, mais c'est sûr que ça peut être symptomatique, soit que la personne est comme ça, a des problèmes. Peut-être qu'elle a des problèmes à régler. Donc, peut-être qu'avant de revenir avec et de dealer avec les autres, régler ces problèmes-là. Il y a des problèmes à régler avec lui-même. Mais je pense que tu as raison aussi. J'ai assez avec Ben un petit peu avant l'émission, puis il m'a dit la même chose. Fuck eux autres. Parce que c'est sûr que c'est difficile à gérer. C'est sûr que la perception que les autres ont de toi, c'est jamais facile. C'est sûr que s'il faut que tu ramènes dans ta famille, puis il faut que les gens fassent semblant de l'aimer. « Hey, t'as trompé ma fille! » Prends un peu de dinde. C'est pas si facile, mais en même temps, c'est ton choix personnel. Si t'es prêt à faire ça... T'sais.
Si t'es capable de le défendre une bonne fois pour toutes... puis de mettre ça derrière toi, puis derrière la famille, peut-être qu'ils vont te suivre. Mais s'ils te sentent eux-mêmes troublés là-dedans, peut-être qu'ils n'ont pas tort.
Oui, peut-être qu'ils vont sentir que ta décision vient pas de toi. T'sais. Donc, je pense que la personne devrait justement s'assurer d'avoir pris la bonne décision pour les bonnes raisons. Puis aussi, moyen de parler. T'sais, tu peux parler à ta famille, dire « Bon, mais là, il s'est passé ça. S'il vous plaît, respectez mon choix avec tes amis. » Parce que moi, je me connais des fois. Là, mes amis, ils font... Quelqu'un qui me fait mal à moi, ça va. Quelqu'un qui fait mal à mes amis, par exemple, je deviens maligne. Puis des fois, je me mêle pas de mes affaires. Ben, j'ai appris avec le temps. Mais c'est sûr que j'aurais le réflexe de défendre cette personne-là, même si ça me regarde pas. Peut-être un peu moins. Juste un petit serpent dans un trailer. Rien de grave. mais c'est sûr qu'il faut que tu demandes à tes amis de pas s'en mêler. C'est ta vie, c'est ta décision. Tu peux pas contrôler les émotions des autres, mais tu peux contrôler leur réaction, peut-être un peu. Mais c'est sûr qu'il va y avoir de l'hostilité. C'est sûr que je vais faire des stinky eyes à la personne. Peut-être un petit peu des menaces, le doigt dans le cou, un petit peu. Non, pas jusque là. Mais je pense que c'est ça que la personne devrait se demander, comme tu as dit, premièrement, si j'ai des doutes, c'était-tu vraiment la bonne décision de revenir avec cette personne-là? Donc, on lui souhaite bonne chance. L'autre question, ça rapporte un petit peu, on en avait parlé justement, et j'ai reçu ça cette semaine. Les ruptures sur Facebook, comment gérer ça? Fait que t'as dit faire des vidéos.
Dire? Ouais, ben là, c'est parce que nous, on fait des vidéos, là, dans le sens où, ouais, tu sais, si t'as pas une vie publique, faire une vidéo de rupture, c'est un peu bad.
C'est un peu intense.
Salut tout le monde, alors, comme première vidéo, c'est fini entre moi et ma blonde.
Bienvenue
sur ma chaîne, tu sais, puis le gars, sa deuxième vidéo, c'est dans 5 ans quand il laisse encore sa blonde. Alors, fait que c'est terminé maintenant avec Joanie. C'est n'importe quoi. Mais écoute, on parle de quelqu'un qui pas qui s'est fait laisser par Facebook, là.
Non, mais non, une comment gérer sur Facebook, parce que tu sais, c'est écrit, si t'es en couple, t'as des photos de couple, t'as une bannière. Ouais. Comment tu gères ça? Moi, je peux dire qu'avec mon ex, on était ensemble depuis 3 ans, on avait des amis communs, lui était un peu connu quand même, mais... Puis on savait que ça allait affecter beaucoup de gens. On voulait pas trop de questions.
Faire des vagues.
Oui, donc on a pris la décision de faire un statut. On a fait à peu près le même statut. On a confirmé que ça allait parce qu'on voulait que ce soit respectueux de l'autre, de notre décision.
Je veux pas te ramener dans le passé, mais est-ce que ça a été un break-up relativement sain? T'sais, est-ce que ça a été difficile quand même?
Oui, ça a été difficile parce que j'étais encore en amour avec lui, mais ça fonctionnait pas, donc il a fallu que je le laisse. Mais ça a été difficile, mais ça s'est bien fait. Donc, c'est fait de façon adulte et respectueuse.
Exact. Donc c'est plus facile de s'entendre sur justement un statut commun ou une espèce de page tournée. Parce que s'il y a quelqu'un dans l'équation qui est encore vraiment fâché et ou irrationnel, là, ça peut être plus difficile, j'ai l'impression, de raisonner avec quelqu'un qui est en tabarnouche. Et là, ça peut devenir facilement un concours du voisin gonflable de qui peut faire le statut le plus
meurtrier. Ça, c'est vraiment désagréable. C'est tellement malaisant.
Et ça, c'est pas bon pour personne dans le couple. Donc, ne faites pas ça à la maison. Parce que même si c'est vous qui avez l'impression qu'il avait écrit le meilleur message, on vous juge quand même.
Oui. Ça fait pas de vous des bons humains.
Non. Peut-être que, justement, ça pourrait être une bonne chose de viser un message Facebook relativement positif si on est capable d'être rendu là ou sinon... j'ai l'impression que la discrétion est de mise. Il y a moyen de rendre discret, de rendre privé des posts. Donc, tu sais, par exemple, je deviens célibataire, on peut le mettre en non public, comme ça au moins le post il passe un peu dans le beurre, puis on peut laisser
ça
les choses aller.
Ça n'a pas toujours été comme ça, mais ils l'ont changé. Tu peux passer à célibataire sans que ça fasse justement.
Sans que ça fasse un plat sur YouTube. Puis bon, on change de photo de profil et hop, on est rendu sur Tinder.
Ou tu peux faire un post que tu es rendu sur Tinder. Tu peux faire ça. Mais je pense que l'important, c'est justement que ce soit dans le respect. Je pense qu'il n'y a personne qui aime les débordements d'un côté ou de l'autre, qui rend ou que tu te sens obligé de prendre un côté ou de... Tu sais, laver son linge sale en public, là, c'est jamais bon. C'est très toxique, justement. Puis on dirait qu'il y en a qui utilisent ça un peu pour se sentir mieux, pour caler l'autre.
C'est jamais une bonne idée, ça. Mais que ce soit même en... Tu sais, à la limite, là, trouve-toi deux, trois amis là, qui vont entendre tout le négatif que tu as à dire au monde sur cette personne-là. Là, puis
garde
eux,
ça intime.
Les amis vont être là pour ça. Là, ils vont prendre ton épaule. Et en fait, ils seront ton épaule. Mais effectivement, publiquement, il faut choisir ses combats.
Parce que j'ai des amis qui étaient en couple depuis très longtemps et qui s'étaient demandé, je leur en parlais après, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on l'annonce-tu? Est-ce que les gens vont nous poser des questions? Les gens vont nous envoyer des messages? Ça ne nous tente pas. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont fait très, très subtilement et très graduellement. Moi, je pense que ça m'a pris du temps avant d'avoir l'information, avant de comprendre. T'sais, ils arrêtaient d'être dans le post l'un de l'autre. Tout ça, ils n'ont pas fait de grande annonce. Mais tu peux partir graduellement comme ça. Tu n'es pas obligé de faire un grand bang. Puis de toute façon... Vous devez, à part justement à vos amis, à vos proches, vous devez rien. T'sais. Vous devez rien à vos followers Facebook, vous devez rien à vos connaissances. T'sais.
Ou faites une vidéo humoristique, les 5 choses que j'ai détestées chez nous.
Arrête de planifier des vidéos YouTube. C'est une maladie. Comme je te disais, je filtre les questions pour l'invité.
Oui.
Donc, j'imagine que tu vas m'aider pour celle-là. Quand j'ai rencontré ma blonde, j'étais contente d'avoir une blonde belle et sexy. C'est ton cas. À l'aise avec son corps et sa sexualité. Par contre, le fait qu'elle pose des photos sexy d'elle sur Internet et reçoive des messages publics et privés de plein de gars commence à me déranger. Mais je ne veux pas la brimer ou changer ce qu'elle est.
Bonne question.
Comment est-ce que je peux aborder ça avec elle? C'est difficile, hein?
Mais premièrement, aborde ça avec elle. Première chose. Non, mais c'est vrai, tu sais, commence par en jaser. Faut pas dans... La question que tu dois te poser, c'est es-tu jaloux? Et si oui, as-tu des raisons de l'être? Tu sais? Mais je pense que c'est important de connaître la démarche de ta blonde, pourquoi elle fait, qu'est-ce qu'elle aime là-dedans. Moi, je pense que c'est important si cette fille-là... Tu sais... Ses raisons sont bonnes, dans le sens où ça prend des bonnes raisons de le faire. Puis si elle a ses raisons, puis qu'elle est à l'aise avec celle-ci, ben ça a du sens. T'sais. Donc, il faut.
Par exemple.
Ben, par exemple, si ta blonde, elle met des photos sexy d'elle sur Internet, mais c'est pour lancer sa marque de maillot de bain, puis faire des millions de dollars comme Elisabeth Rioux, par exemple. Moi, je trouve que c'est une très bonne raison de mettre des photos de fesses sur Internet, de se rendre millionnaire en vendant des maillots de bain. Excellent. Moi, 10 sur 10. Tu me dis ça, je vais être comme. You go, girl. Mais est-ce que c'est pour tout le monde, pas nécessairement? Et puis aussi, c'est à toi de te poser la question. Si c'est vraiment dans ses valeurs de se montrer le cul sur Instagram, puis que toi, ça turn off ou ça te rejoint pas, vous êtes peut-être pas fait pour aller ensemble. Donc, peut-être que tu veux pas la brimer, t'as raison de le faire, mais si ça te fatigue autant, ben peut-être que t'es pas dans la bonne relation. Je sais pas, moi je suis là, je brise des coupes, je fais des coupes aujourd'hui. Là, je suis
devenu un expert. Tu poses de bonnes questions.
Mais un, aborde le sujet avec ta blonde, pose la question pourquoi, qu'est-ce qu'elle aime dans ça. Sans nécessairement parler des gars, les messages qu'elle reçoit ou qu'elle reçoit pas.
Parce commence que ça, pas même à... en dessous de Skidoo, on en reçoit des messages de toute façon.
Exact. Puis tu sais, commence. Tu sais, fais pas la police de l'Instagram, là, c'est niaiseux, là, ça. Mais c'est une question du pourquoi. Puis si le pourquoi est pertinent, c'est tout à fait louable. Mais tu sais, moi-même, il m'arrive de juger certaines photos. Là, puis j'essaie d'être.
Je pense que tu as dit que tu étais nu sur Internet.
Non, moi, c'est sûr que je vais à mon corps en premier lieu, là, définitivement. C'est la première chose que les gens remarquent.
On est là pour ça.
Sur ma chaîne, c'est sûr que c'est pour mon physique. Là, je veux dire, m'as-tu vu le six-pack? Il n'existait pas. M'as-tu vu le six-pack? Il est dans mon fridge. Blague de l'année. Bref.
Donc, tu juges des photos.
Ça m'arrive de juger des photos de certaines filles qui aiment se montrer, même si je passe beaucoup de temps de ma vie à les défendre sur les tribunes médiatiques plus classiques, où justement, là, moi, les filles qui sont sur Instagram, là, qui se montrent le cul, là. T'sais, moi, premièrement, je leur dis, t'sais, les gens disent, oh, ils n'ont aucun talent, ces filles-là. Premièrement, ils ont un talent, c'est le marketing. Parce que moi, j'en connais des dizaines des filles qui ont un beau cul qui n'ont pas 100 000 abonnés sur Instagram. Et j'en connais quelques-unes qui ont un beau cul et qui ont réussi à avoir 100 000 abonnés sur Instagram et qui ont réussi à rendre ça, à transformer ça en job, en business, en compagnie de vêtements, en compagnie de lingerie, peu importe. Ils ont réussi à rentabiliser ce magnifique corps qu'ils possèdent. Et ça, c'est tout à fait louable. Mais effectivement, moi, il y a des fois où j'ai l'impression que des fois, dans certains cas, les filles vont montrer de la peau pour se valider elle-même et se sentir bien par rapport à elle-même grâce au regard des autres et aux likes qui entreront. Et moi, j'ai toujours un problème avec ça. Je pense que c'est toujours agréable de recevoir des likes dans la vie. On en fait, moi, j'en fais un peu un métier. Sauf que il faut pas non plus que ça devienne une religion ou un outil pour t'aider dans ta bonne humeur.
Parce que ça peut devenir toxique.
Complètement. Si facilement. Dans le sens où je pense que, justement, rapidement, tu peux commencer à créer pour les abonnés et non plus pour toi.
Puis ou que t'as besoin de l'approbation pour être heureuse.
Ou t'as besoin de l'approbation pour être heureuse. Hey, il me semble que... Elle lève pas, là, cette photo-là. Là. Il me semble que je pourrais avoir plus... moi, là, j'ai toujours un grain d'empathie envers les gens qui me parlent comme ça en me disant, tu sais, tu devrais... Don't live for the gram, do it for Compton. Comme ça, I don't do it for the gram, I do it for Compton. Et anyway, ça, c'est une citation de Kendrick Lamar.
Oui.
Qui a fait la trame sonore de l'excellent film Black Panther?
Oui, Benoît, ne nous parle pas.
J'ai hâte de voir le film, j'aime beaucoup Kendrick Lamar.
Mais j'ai aussi, et j'en ai discuté, je sais pas pourquoi j'ai un problème tant que ça avec les gens qui mettent des selfies pour validation. J'ai beaucoup d'amis, je ne vous juge pas, amis qui fait ça, parce que moi, de toute façon, j'ai ça, mettre ma face, fait que qui suis-je pour juger? Mais les gens qui vivent de valorisation, justement, par rapport à leur visage, par rapport à leur personne, et que il y en a qui font ça quand ils filent pas, ils mettent un visage, ils se trouvent cute, et c'est correct, ils montrent aux gens, ils partagent, comme on disait tantôt, ils font un partage qui se trouve belle, et ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir, et j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi ça me dérange tant, parce que eux, ça leur fait plaisir. Eux, ça les aide.
Et eux récoltent des likes.
Oui, mais c'est pas juste
des gens ont liké, ça l'a rendu les gens qui ont liké eux aussi.
Mais c'est pas juste les likes, c'est les compliments, c'est les messages. Et je peux comprendre qu'une journée, t'es super dépressif, ça va pas bien, tu te trouves cute, tu mets une photo, les gens t'envoient. Tu vas chercher de l'amour. Et ils font de mal à personne. Les gens sont contents de voir leur selfie. Et c'est un moyen de communication aussi de dire « je file pas aujourd'hui », les gens vont donner un peu de l'amour ou juste « je me trouvais cute ». C'est du empowerment, tu sais. Je me trouve cute.
Tu sais,
empowerment. J'ai tellement la misère. J'essaie de passer ça subtil que j'ai la misère avec ce mot. Vous avez compris. Donc, c'est très positif et ça peut être des filles de n'importe quel gabarit, de n'importe quel âge. Je trouve ça super. Je devrais encourager ça. Mais je suis sur Twitter puis je vois des filles qui mettent des photos de leur visage et ça me rend mal à l'aise. C'est pas un jugement, je suis pas en train de je suis pas en train de me dire t'essaies d'attirer l'attention, mais j'ai un malaise de la valorisation de son propre visage. Puis je sais pas d'où ça me vient, ça.
peut-être que ça vient de tes propres insécurités envers ton...
Envers ma face.
Ben peut-être, exact. Tu l'as dit, tu l'aimais pas tantôt, d'ailleurs. Tu sais, idéalement, tout le monde devrait s'aimer dans la vie. J'espère que c'est le cas du plus de monde.
Je travaille là-dessus.
Mais bref, c'est ça. Faut peut-être se poser des questions sur les motivations qui mènent les gens à montrer leur beau corps sur Instagram. Et avant de commencer à sauter à la gorge des gars qui écrivent dans les DMs,
mais ça, je trouve ça dommage parce qu'on dirait qu'il lui reproche les messages qu'elle reçoit alors que elle a peut-être rien demandé.
Imagine si elle fait ça sûrement pour ces messages-là. Non, mais on sait pas, là, on connaît pas ces personnes-là. Là,
ça se peut aussi de là où demander pourquoi, parce que si elle fait ça pour attirer l'attention de d'autres garçons, de là, vous avez un problème.
Oui, puis de s'assurer qu'elle est à l'aise avec ça et qu'elle fait pour, entre guillemets, les bonnes raisons. Puis si c'est pas compatible avec toi, ben il y a toujours Tinder maintenant.
On vient toujours à ça. Parce que c'est vrai que je trouve ça étrange, parce que quand mes amis mettent des selfies et je les trouve belles, je suis super contente pour eux autres. Je vais les liker, je vais écrire des compliments. Puis étrangement, pour d'autres personnes que je connais moins ou pour dans certaines occasions, je sais pas, c'est peut-être un jugement de ma part, ou je pense qu'il y a aussi une part de moi qui... C'est un jugement pas individuel, mais un jugement de société, que je trouve ça étrange. Qu'on va quelque part, on met une photo de sa face. « Ah, je suis devant un arbre, l'arbre est super beau. » Ta face prend le trois quarts de l'arbre.
Ouais, mais j'ai une réponse à ça.
Je scroll des selfies, puis je suis comme « Pourquoi je vois les faces des gens? Pourquoi je suis en train de regarder les faces des gens? »
As-tu déjà ouvert un vieil album de photos familiales?
Oui.
Les grands-parents du monde entier te le confirmeront. Ce qui est intéressant dans une photo du passé, c'est pas genre dans ton voyage en Italie, ta photo que t'as pris de la tour de Pise. C'est la photo de toi devant la tour de Pise. Ce qui est intéressant, c'est les humains, tu sais. Donc, ce qui est intéressant, c'est le contexte de la photo, puis c'est que la personne était là, puis c'est plate en maudit sur un fil Instagram, je reviens à ce qu'on disait tantôt. C'est seulement... Il y en a qui sont des photographes et qui font des superbes photos, là, mais moi-même, là, je peux faire le test, là, je te dis, là, la même photo de coucher de soleil, si je suis dedans, si je suis pas dedans, va avoir une réaction du public totalement différente.
Mais c'est vrai qu'en tant que souvenir, oui, c'est intéressant de, tu sais, quand j'étais en Californie, j'ai pris des photos incroyables de la plage puis tout ça, mais si tu fais un voyage, ça peut être intéressant comme souvenir de voir toi à cette époque-là, tu sais, voir ton sourire quand tu étais là et de voir de...
À quoi tu ressembles?
Ton brushing dégueulasse à ce moment.
Comment t'étais habillé, t'étais avec qui, t'as-tu fait des amis sur la plage, peu importe, tu sais... Je pense que les meilleures expériences dans la vie viennent des expériences humaines. Puis c'est ça qui nous rend heureux, je pense.
Je vais arrêter de vous juger, mais je vous trouve beau, mes amis. C'est correct, je vous trouve beau. Pas toi, Ben. OK. Je pense que cette question-là, je vais la ressortir d'un autre sens aussi avec une fille, mais selon toi, est-ce que c'est vrai qu'une fille avec une forte sex drive, ça fait peur aux gars?
Non.
Et c'est terminé.
Non, ça dépend. Là. C'est parce qu'il faut définir trop forte sex drive.
Je pense que c'est de la manière que j'ai interprété, parce que le message était aussi un peu plus long. Je pense que c'est malheureusement une fille qui a une sex drive entre gros guillemets ici comme un gars.
Ouais, je comprends. Non, mais dans le sens où, en tout cas, moi, dans mon passé, j'ai toujours apprécié le fait que mes partenaires sexuels aient envie de sexe. Je pense que c'est une bonne affaire, là, dans le sens...
On va pas se plaindre.
Non, exact. Puis, je veux dire, malheureusement, c'est tellement classique l'histoire inverse, là, où un des deux partenaires est déçu parce qu'il n'y en a pas assez, là, tu sais. Puis, je pense que l'idéal, j'imagine, c'est de trouver quelqu'un qui a un peu la même libido que toi ou qui a une libido qui est compatible à la tienne, tu sais. Encore une fois, je marche sur les yeux parce qu'on rappelle aux gens que je ne suis pas un professionnel des relations amoureuses ni du sexe. Sauf que je pense que c'est très cool, puis moi je pense que le sexe est un peu un reflet peut-être ou une métaphore de la relation des deux personnes. Encore une fois, je suis peut-être très jeune et naïf, mais j'ai l'impression que si le sex drive de la fille est là, puis que toi aussi t'as envie d'avoir du sexe, ben c'est vraiment enrichissant pour tout le monde. Peut-être que, je sais pas, faut définir, est-ce que la personne imaginait une power cougar en manque de sexe qui te pogne dans un club qui est comme « fais-moi l'amour ici », là peut-être que je vais être je vais peut-être avoir le goût de backer off un peu plus que de dire comme « oui, maintenant », tu sais, c'est un peu moins, j'ai l'impression que il y a une dose.
Puis il y a le contexte aussi.
Exact. Mais il y a peut-être des gars qui sont intimidés. Il y a des gars qui sont intimidés par les femmes confiantes. Là,
mettons que sur une première date, la fille, tu sais, est décidée, puis c'est ça qu'elle veut, puis elle montre qu'elle a beaucoup d'expérience.
Si j'ai envie de ça, je vais être tellement heureux d'avoir une horny girl qui a envie de crazy monkey sex.
Autant que toi, tu sais.
Exact, tu sais, sur une première date. Mais effectivement, peut-être que c'est pas la fille que tu vas présenter à ta mère dans 6 mois.
Mais peut-être que oui.
Mais peut-être que oui. Peut-être que Tout est possible. Ça dépend vraiment de tes besoins et de la personne. Alors, écoutez votre cœur et trouvez quelqu'un qui a une libido comme vous.
Mais j'imagine que certains pourraient être intimidés ou avoir la peur de la performance ou le...
Ouais, mais ça, tu peux l'avoir même si la fille n'est pas over-horny, là, dans le sens où, tu sais, encore une fois, là, on parlait de fréquence ou d'intensité sexuelle, là, qui est quand même deux mondes.
C'est
là.
Vrai.
Si la fille est comme... ça peut être vraiment nice, mais si elle fait des cris comme ça seulement aux 2 mois, peut-être moins intéressant, alors que peut-être qu'avoir un sex drive très, très prononcé, c'est peut-être plus genre d'avoir envie de faire la planche à chaque jour. Tu sais, je sais pas, là, ça dépend vraiment de la personne.
J'ai l'impression en contexte, c'était surtout une fille qui montrait qu'elle avait beaucoup envie souvent.
Ben, je pense qu'il y a quelqu'un qui va être très heureux de ça, oui. Qu'elle va trouver, tu sais. Puis la question, c'est est-ce qu'elle trouve que les gars sont pas assez, avides de sexe pour elle, tu sais, parce qu'il y en a aussi des gars qui, à un moment donné, sont exténués, là. Moi, je dis, faisons des push-ups, allons faire un peu de natation et buvons un verre d'eau et recommençons.
Mettez-vous un peu de Gatorade, les gars.
Ouais, et on repart à l'aventure, mais je comprends que ça peut être exténuant avec les vies qu'on vit, parce que ça vaut la peine.
Effectivement. Je pense qu'il y a aussi, il y a encore cette perception aussi de la performance, surtout chez l'homme. Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gars, justement, avec une fille qui a un beaucoup de sex drive, qui ont l'impression qu'il faut qu'ils performent
encore
beaucoup
plus.
Tout le temps, que ça leur tente tout le temps, qu'ils soient en forme. Tu sais, qu'il y a encore beaucoup, malheureusement, cette perception que l'homme est responsable complètement du plaisir dans l'acte ou du plaisir pour la femme. Donc, il faut qu'il performe, il faut qu'il fasse jouir la femme. Donc, dans ma tête, c'est peut-être aussi beaucoup une question de performance. Il faut qu'il y ait un résultat. Donc, il est responsable de ça. Donc, une fille qui a une grande sex drive, c'est de l'énergie.
Moi, la performance, je garde ça pour Mario Kart, sérieusement. Là. Je mets les priorités à la bonne place, là. Honnêtement. Là.
Moi,
donnez-moi
ça.
Une carapace bleue, puis on s'en reparle demain matin, là.
C'est parfait. Et Fred, on va finir là-dessus parce que c'est trop magique.
C'est parfait.
Je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous voir.
Un grand plaisir.
Ça nous a beaucoup éclairé. J'espère que ça a aidé les gens à la maison. Et peut-être qu'on invitera Camille. Peut-être, je trouverais ça intéressant.
N'hésitez pas.
Je trouverais ça intéressant de parler aussi avec quelqu'un qui vivait avec un allosexuel, pas juste la personne qui le vit elle-même.
Je vis pas avec, en par exemple.
Non, mais je veux dire qui est en couple.
Oui, exact.
Qui est en couple. Ouais. Alors, merci aux auditeurs qui nous ont écoutés, qui ont eu le courage de m'acheminer leurs questions.
Merci d'avoir été là.
Ah oui, merci. Qui permettent, je l'espère, bien les gens à la maison d'avoir des réponses plus éclairées. Et n'hésitez pas à m'envoyer des questions parce que c'est comme ça qu'on peut fonctionner, c'est comme ça que l'émission peut continuer à exister. Alors, pour m'acheminer des questions, vous pouvez le faire de façon anonyme. J'ai un Ask Me. Une adresse courriel également qui est coeur@gmail.com, un compte Twitter, un compte Facebook où vous pouvez retrouver toutes les informations. Et je vous rappelle que Coeur et Croupe est produit par le podcast Les Mystérieux Étonnants. Merci à Ben, merci aux consoles. Alors merci, au prochain épisode.